Hein, la puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais raculé. Parle en français, parle au cash, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours redette comme les bacs dans mon secteur. Hein, t'es dans la merde. Je suis au fond d'un caravane IP. Ce bâtard sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux têche la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz. Recueille-toi et laisse-moi en faire.
Voilà, soyez les bienvenus sur Dunia.net. On espère que vous avez passé une agréable journée. Nous sommes avec toute l'équipe parmi vous pour vous parler de cette émission. On est un peu en retard parce que nous attendions nos invités, mais ils sont aussi un peu en retard. À ceux et celles qui nous suivent, vous pouvez bien sûr nous contacter sur la page Facebook et participer à cette émission consacrée aux étudiants comoriens. On vous rappelle que demain, il y aura une journée spéciale Comore Impact qui se déroulera du côté de Sarcelles. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe et nous attendons aussi dans quelques instants nos invités qui seront là, bien sûr. Et je vais donner la parole à mon collègue Imran pour vous dire bonjour. Et nous sommes avec qui va présenter ses amis qui sont à côté de lui.
Alors Abou, je vais pas trop parler, je vais céder la parole à tous ceux, genre l'équipe, hein. L'équipe qui est là pour se présenter. Je me présente d'abord pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent de nous rejoindre sur www.duniaweb.net. Radio Dunia.net, Dunia.net pour ne pas oublier. Sinon, ceux qui nous écoutent sur Free, c'est Imran de votre radio, Radio Dunia Web. Je suis avec mon collègue que je vais lancer la parole. T'as la parole, Arijal Kawamuna Al-Nisaï, toujours non.
Oui, mes fidèles de Radio Dunia Web, bonjour. Donc, moi, c'est Rakib, animateur de la radio Dunia Web. Je pense que ceux qui suivent un peu la radio ont eu la chance de m'avoir quelques années avant. Mais bon, j'étais un peu absent ces derniers temps.
Il était à la retraite.
Non, c'était pour des raisons personnelles. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour. Et c'est pas pour rien, parce que c'est pour aussi parler un peu de la journée de l'étudiant comorien qui aura lieu demain, si je ne me trompe pas, à Sarcelles. Donc, on aura l'occasion d'aborder ce sujet au cours de notre émission.
Et voilà, nous sommes avec une jeune fille qui va rejoindre l'équipe de Dunia Web. Je vais la laisser se présenter.
Alors bonjour, moi c'est Rachiba, ou Sichi pour les intimes. Je suis nouvelle, c'est Dunia Web, et vous me verrez peut-être plus souvent sur la radio.
Tu penses continuer le relais?
Hein?
Ouais. J'ai envie de travailler avec l'équipe de Dunia Web jusqu'au bout. Comme on le fait, comme Abou le fait. Hein.
Pourquoi pas?
Voilà, on voit qu'elle est courageuse à vous. Hein.
Oui. Donc déjà, alors on sait qu'il y a aussi d'autres personnes qui viendront bien sûr participer à l'aventure. Et comme vous le savez, on essaiera de vous faire le maximum pour vous faire plaisir. Donc, on va parler aujourd'hui de cet événement qui va se dérouler du côté de Sarcelles. Est-ce qu'on prend le temps, on passe un titre et puis on revient?
Non, on attaque directement pour passer plus des informations à ceux qui nous écoutent en ce moment, parce que l'événement aura lieu demain. On aura le président avec des membres, le responsable chargé des manifestations scientifiques, l'écrivain Saïf, il sera là avec nous. Il y aura aussi le doctorant Saïli Madi, ils seront là pour vous parler plus sur le programme. Et on va juste vous faire une petite présentation de ce qui va se passer demain. Alors, il s'agit de la deuxième édition de la journée de l'étudiant comorien en France, qui a été déjà organisée l'année dernière, vous avez pu entendre sur nos ondes de la radio Dunia Web. Et puis voilà, c'est la deuxième édition et ça se passe à Sarcelles, sur la maison des quartiers, les Vignes Blanches. C'est tout près de chez Ratiba, non?
Oui, tout à fait.
Voilà, elle est à côté. Donc, elle va vous assurer une animation. Ça sera garanti à demain. Donc, demain, il y aura toute l'équipe de Radio Dunia Web pour vous assurer l'animation de cette journée. Vous diffusez 5 sur 5 ce qui va se passer tout au long de la journée. Et il faudra noter qu'il n'y aura pas que les manifestations scientifiques et culturelles et étudiantines, mais vous aurez la chance de danser, vous amuser avec des artistes comoriens tels que Rivoine, Nifai et Ibrahim. Ils vont vous faire le show. Mais j'aimerais bien que Abou vienne au rendez-vous. Hein. Il a refusé, hein. Mais j'aimerais bien Abou que tu viennes.
C'est-à-dire ?
Bah, viens de chanter.
Hein. Ah, non. Bah.
J'ai hâte d'entendre. Zoafania. Non, je vais pas continuer. Alors, je vais vous donner un petit peu le programme. Il y aura une conférence débat sur les problématiques des étudiants, les enjeux des étudiants étrangers en France. Il y aura une rencontre littéraire avec l'écrivain Ali Zamir, que vous connaissez tous. C'est l'auteur de Anguille sous roche, c'est ça, vous ?
Oui, tout à fait.
Ok.
Sorti vient de... chez édition Célacante, qui seront là aussi.
Voilà, les éditions Célacante seront là. Ils sont parmi les sponsors officiels de cet événement. On aura également des présentations des travaux de recherche. Ce sont des jeunes doctorants et des docteurs, parce qu'il y aura docteur Durard. Il va nous présenter sa thèse. Sa thèse, oui, effectivement. Et puis voilà. Et pour revenir, Rakib, comme je t'ai dit, on va aborder des problématiques des étudiants. Comment hein, toi, t'as passé dans ce monde, j'imagine, dans le monde des études. Comment tu peux expliquer un petit peu par rapport à ce sujet qu'on débat du jour au jour, les problèmes des étudiants, comment il y a en France ? Alors, on peut commencer par des problématiques, hein, parce que déjà pour commencer... pour parler des étudiants comoriens en France, on parle de l'échec. Est-ce que cela est vrai ou pas ? C'est ton point de vue personnel, hein ?
C'est relativement vrai, j'ai envie de dire. En fait, ça dépend de l'angle de vue où on se place pour regarder ou analyser la chose, parce que il y a quand même de l'échec, mais il y a pas mal d'étudiants qui s'en sortent. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir pourquoi certains arrivent à s'en sortir et d'autres non. Je pense que c'est d'abord une question d'orientation. Il y a des étudiants, malheureusement, ils sont pas bien orientés ou ils se sont pas bien orientés parce qu'ils n'ont pas eu les personnes pour les guider, les donner les informations nécessaires. Du coup, il y a pas mal de formations aux Comores où j'ai envie de dire c'est plus facile là-bas au vu des programmes qui sont proposés. Du coup, quand l'étudiant sort diplômé là-bas, il vient en France, il a l'idée que voilà, ça a été facile, il vient, il néglige, alors que ça n'a rien à voir, c'est tout un autre programme, c'est toute une autre manière de travailler. Du coup, bah, le temps qu'il découvre tout ça et qu'il puisse s'intégrer, sachant aussi qu'il y a quand même pas mal de problématiques sociales. Par exemple, t'es au Comores, t'es avec ta famille, t'es avec tes parents, donc tu vas à l'école, tu reviens à la maison, tu manges, tu dors, tu révises.
Tu travailles pas.
Par contre, quand tu es en France, déjà, il faut te poser la question, comment je vais réussir à payer mon transport ? Comment je vais faire pour manger ? Comment je vais faire pour me loger ? Du coup, c'est pas mal de choses qui font en sorte que l'étudiant, il n'a pas qu'une seule priorité. Les études font partie de ses priorités, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de choses qui font que voilà, il doit trouver des solutions à tous ses problèmes. Et quand il n'est pas guéri, quand il n'est pas bien entouré, surtout avec le climat, quand il fait froid, t'as plus
d'une manière générale. D'une manière générale, ce qu'on dit, c'est ce que je voulais dire, ce que tu as dit au début, c'est l'orientation. Parlant justement de l'orientation, j'aimerais retourner avec Ratiba pour nous parler un petit peu ce qu'elle en pense par rapport aux étudiants qu'elle a vécu. Parce que tu as vécu certainement, tu as déjà entendu des étudiants comoriens qui ont obtenu leur bac et qui sont venus ici, soit continuer en première année ou sa deuxième année de licence. Qu'est-ce que tu peux expliquer?
Alors moi, je vais parler de mon point de vue personnel. Pour avoir fait un an aux Comores, j'ai pu rencontrer des étudiants qui ont obtenu leur bac et qui par la suite se sont orientés dans des filières, soit parce que ben c'est des filières plus ou moins élitistes et qui comme par exemple ben les facs de médecine, etc. On pense que justement le niveau obtenu à l'école, enfin au lycée aux Comores, on pense que les résultats
Satisfaisants.
Comment ?
Ils sont pas satisfaisants.
Si, on pense qu'ils sont satisfaisants. Justement, on les prépare pas quant au niveau qui est attendu ici en France. Et c'est vrai que par rapport au programme déjà et par rapport à la pédagogie, c'est pas du tout la même chose. Donc quand ils viennent en France, la plupart ils sont perdus. Enfin, pour pas généraliser, puisque c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont très bien orientés, il y en a qui s'intéressent et qui essayent de faire des recherches. Mais je pense que le gros problème, comme l'a dit Rakib, c'est vraiment l'orientation.
Mais est-ce que c'est vraiment un problème pédagogique qu'on peut dire? Parce que moi, j'ai déjà entendu une prof, Rakib, qui enseigne à l'Université des Comores, c'est Madame Mwanaisha, m'a témoigné, m'a dit que franchement, on a reçu des profs, des enseignants-chercheurs français qui sont venus regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à leur correction, leur manière de fonctionner aux Comores. Et quand ils ont vu des notes, ils étaient choqués parce que ils ont vu des 9 ou des 8, genre pas la moyenne, mais après ils se sont dit, mais voilà, ce sont des étudiants qui méritent quand même la moyenne. Cela peut s'expliquer à genre ce que Ratiba vient d'expliquer, que c'est problème pédagogique, ou bien qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça?
Moi, je pense d'abord que déjà le problème, il est à la base, je pense que c'est depuis la maternelle, enfin la maternelle, depuis l'école, l'école primaire, le collège. Parce que déjà, l'étudiant, même s'il a le niveau, enfin le fond nécessaire, mais dans la forme, c'est pas trop ça. J'ai envie de dire, par exemple, il y a des étudiants en droit, la plupart ont du mal avec la méthodologie, tu vois. C'est... Alors qu'au Comore...
La méthodologie universitaire ou bien la méthodologie pour le domaine spécifique, le
parlant
droit?
Parlant de droit, je veux dire de la méthodologie juridique. Mais d'accord. Si je parle d'une manière globale, ça sera la méthodologie universitaire. Genre, même la façon dont les épreuves, les partiels, ils sont organisés au Comore, c'est pas la même chose ici. Enfin, je dis ça par rapport à des échos que j'ai.
Mais t'as vécu le Maroc, hein. T'as vécu le Maroc,
moi,
tu peux parler de
ça. Personnellement, j'ai pas, voilà, j'ai pas étudié au Comore, du coup, voilà. À l'université au Comore, je peux pas vraiment en parler. Mais quant au Maroc, il y a une fossé. Il y a une fossé entre le Maroc et le Comore, et ici en France, parce que déjà, ce que vous pouvez faire au Maroc en un seul cours, par exemple, le programme pour un semestre, ben ici en France, vous le faites pour, je sais pas, une semaine, voire un seul jour.
Je crois que cela va dépendre des filières à l'autre, non?
Bon, moi, je vais parler de droit, tu vois. Je vais parler de droit, okay, je vais parler okay. De mon domaine.
D'accord.
Ici, en France, c'est beaucoup plus pointu, c'est vaste. Alors qu'au Maroc, on vous donne l'essentiel, en fait. On vous apprend des trucs. On vous apprend pas à devenir des juristes. Donc, quand tu sors de l'université là-bas, t'as peut-être des bagages, mais tu sais pas comment l'utiliser. Arrivé en France, là, on vous apprend vraiment le métier. Par exemple, vous pouvez assimiler des choses, assimiler le cours, mais n'arrivez pas à l'utiliser, n'arrivez pas à faire en sorte de répondre à la question. Parce que ici, on va pas vous demander, par exemple, qu'est-ce que c'est que le droit. Enfin, peut-être en première année, mais en master, on va essayer de vous mettre à la place du juriste. De vous poser, de vous exposer, de vous donner un arrêt rendu par un tel juge, et vous demander de mettre à la place du juge quelle décision vous auriez dû prendre. Donc, si tu n'as pas les outils nécessaires, si tu n'as pas la méthodologie, mais aussi la langue, l'expression, parce que voilà, en droit, on est un peu plus à cheval avec tout ce qui est expression, machin, donc c'est un peu compliqué. C'est de ça dont je vais parler. Mais après, pour ce qui est du fond, le programme en lui-même, j'ai appris récemment, j'ai eu un post sur Facebook comme quoi, en troisième année de droit, ils apprennent, la quatrième république. La quatrième république de la France.
C'est un programme de lycée, au lycée.
Voilà, exactement. Et en plus, moi, je me dis que par rapport aux Comores,
non, mais il faut pas du tout mettre en cause, parce que moi, par exemple, j'ai vu sur le programme du Maroc, c'est là où j'ai eu ma licence, bah, on est des Marocains, j'ai vu la lexicologie. La lexicologie que j'ai vue en troisième année, je l'ai revue ici en Master 1. Mais cela ne veut pas dire que c'est pas le même programme, ou bien que la France est en arrière. Parce que là, vous voyez que c'est tout à fait le contraire de ce que tu as dit.
Je ne vais pas te couper la parole, mon cher ami Imran. Mais en fait, il y a une grande différence entre linguistique, entre la géographie,
justement,
et le droit. Laissez-moi, j'y arrive. Donc, je pense que les règles de français ou de grammaire sont les mêmes partout dans le monde. Que ce soit en France, au Comores, au Maroc, on vous dira que, par exemple, deux verbes qui se succèdent, le premier se conjugue, le second se met à l'infinitif. Ça, partout, ça sera pareil. Alors que le droit, chaque pays, chaque État dispose de ses institutions, de ses textes. Donc, il va falloir s'adapter. Et c'est au pays aussi de s'adapter aussi.
Mais est-ce que c'est vraiment réel? Parce que parlant des Comores ou bien du Maroc ou bien ici en France même, on voit des programmes différents. Je prends l'exemple du Maroc. Le programme de licence de littérature dans la faculté de lettres de Fès, c'était complètement différent du programme qui a été enseigné à Marrakech. Hein. Bah, j'ai eu des collègues qui ont a partagé un petit peu ce que nous avons appris, et c'était différent, c'était deux mondes différents. Et quand on voit le programme ici même en France, je fais linguistique française, mais quand tu regardes sur le site d'une autre fac, tu trouves que franchement le programme c'est différent. Donc cela ne remet pas forcément en cause quand on voit la France, parce que la France c'est pas l'idéal, hein. Il y a des universités de haut gamme, si je peux le dire, si je peux me permettre, que la France. Donc quand les programmes se distinguent, cela ne veut pas dire forcément que voilà, l'université de Comores n'est pas bonne, ou bien qu'ils ont pas vraiment. Moi, ce que j'ai constaté, parce que c'est un point de vue personnel, c'est qu'aux Comores, Il y a des enseignants qui sont issus des milieux universitaires différents. Genre, il y a des enseignants qui ont fait leurs études à Madagascar, au Sénégal, Maroc, en France. Et le programme, c'était différent. Donc, quand ils reviennent aux Comores, chacun se dit « Ouais, moi, j'ai fait mes études à Madagascar. On doit faire ça parce que c'était bien.
Sauf que
j'ai fait à Dakar, bah, c'était bien, on fait ça. » Ceux qui ont fait leurs études en France,
on fait ça. Je ne vais pas vous poser la parole. Thibaut, je crois qu'il aimerait intervenir, mais c'est juste pour répondre à ça. Ce n'est pas à l'enseignant de décider de ce qu'il va enseigner.
Oui, effectivement.
Il y a un programme qui a déjà été établi par le ministère de l'Éducation, ou je ne sais pas qui, mais en tout cas, il y a un programme. Et le professeur, lui, il est là pour appliquer le programme. C'est son devoir. Donc, si aux Comores, chaque professeur
essaie de... Ouais. L'Université des Comores a déjà mis en place ce programme
parce que je pense que c'est pas à l'enseignant de dire moi je vais enseigner ceci, moi je vais enseigner cela, sinon il y
aurait
pas...
ou le doit le
ça n'a pas de sens.
De base, c'est le ministère qui doit élaborer ce programme.
Enfin, le ministère, c'est le supérieur hiérarchique dans tout ça. Après, voilà, je sais pas l'organisation, comment c'est fait, je peux pas me hasarder à parler d'un sujet que je maîtrise pas, mais ce que j'ai envie de dire, c'est pas à l'enseignant de décider de ce qu'il va enseigner.
Oui.
Lui, il applique, il est là pour appliquer un programme et puis c'est tout. Après, il y a la façon, ce qu'on appelle la méthodologie, chacun sa manière d'enseigner en fonction de ce qu'il a appris, en fonction de la façon dont lui aussi avait
pris
ses cours. Voilà.
Je vais demander à Ratiba de nous parler un petit peu parce qu'elle elle fait ses études ici en France. Elle a grandi en France, de nous parler son expérience de ce que tu as vu, ce que c'est possible d'avoir par exemple du programme du premier est, elle, ici à Paris, et entendre, recevoir des échos différents par rapport au programme enseigné dans une autre école. T'as déjà vécu celle-là ou pas?
Alors moi, j'ai un parcours assez divers, puisque j'ai effectué d'abord une première année en 6e aux Comores, et ensuite je suis revenue ici en 5e. C'est vrai que quand je suis revenue, j'avais quand même un niveau assez solide dans les matières scientifiques. Par contre, dans les matières littéraires, c'est pas du tout ça aux Comores. Ensuite, j'y suis repartie pour une seconde, et dans l'établissement où j'étais, en fait, ils nous spécialisent dès la seconde. Donc en seconde, j'étais en seconde littéraire. Et pour tout dire, en fait, le niveau en français et en français et en histoire, il était vraiment médiocre. Donc après je parle en fonction, enfin par rapport à mon établissement, il était vraiment médiocre.
C'était où?
C'était à Mouni Baraka, mais après je ne remets pas en cause cet établissement.
C'est l'école qu'on dit que c'est le meilleur.
Ouais, c'est une des écoles phares.
C'est la meilleure.
Je ne critique pas cette école. C'était pas l'école le problème, mais c'était, je pense, le membre du personnel, en fait. Et donc ensuite je suis revenue ici, donc j'ai perdu 2 ans par la suite, donc j'ai refait ma 3e et ma seconde. Donc là j'ai fait une seconde générale, et en fait le programme en seconde générale ici et là-bas, il est totalement différent. Ne serait-ce que en français, on parlait de méthodologie tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose. Ici on nous apprend on nous forme plus à la pratique, enfin à tout ce qui est dissertation, tout ce qui est études critiques de documents, etc. Or que aux Comores, en fait, c'est pas du tout la même chose.
Ouais,
en fait.
C'est au lycée, je peux parler de ça. Sur la critique des documents et tout, on en parle, on enseigne ça au lycée. Voilà.
Par contre, dans les matières scientifiques, ils sont très bons. Et dans les langues aussi, ils sont très bons.
Et c'est quoi ton expérience par rapport à tout ça aux Comores, ce que tu as vécu? Ce qui t'a vraiment marqué?
Franchement, déjà, c'était compliqué. Mon année, elle a été compliquée là-bas. Enfin, d'un point de vue scolaire, j'étais. Je coulais totalement. J'ai redoublé, d'ailleurs on m'a fait redoubler, et je pense qu'il y a pas assez d'encadrement aussi. Les profs et les directeurs, enfin les personnes qui sont aux têtes des établissements, si je puis dire ainsi, ils sont plus dans le faut que tu réussisses, sinon tu resteras là et t'as pas d'avenir. Et donc en fait je sais pas comment m'expliquer, mais il y a pas vraiment de...
Au niveau du français, le français en général, c'est
alors
comment?
Au niveau du français, je mentirais pas, c'est vrai que les étudiants comoriens, ils font aucune faute d'orthographe. Et y a aucune faute d'orthographe, tout est maîtrisé, la grammaire, etc. Par contre, après, c'est vrai que
à l'oral, hein.
C'est vrai qu'à l'oral, c'est autre chose. Après, je vais pas généraliser, c'est vrai qu'à l'oral, c'est autre chose. Mais.
Je peux prendre l'exemple de moi et Raki, c'est pas un problème.
Non, c'est vrai qu'à l'oral, c'est autre chose. Après, je pense que comme il disait Rakib tout à l'heure, il y a un problème par rapport. Il a dit qu'il y avait un problème, que de toute façon que la grammaire, etc., tout c'était maîtrisé. Mais je pense qu'à l'université, en fait, on attend plus de l'étudiant. Il y a des manières de dire dans les copies qui. Enfin, il y a des manières de. Il y a des manières de dire dans.
Oui, continue.
Il y a Il y a des manières de parler, en fait. Enfin, il y a une façon de parler, en fait, dans une copie. Et je pense que aux étudiants comoriens, on leur apprend pas ça. Après, c'est mon point de vue personnel. J'ai eu un prof de français. Franchement, j'en ai bavé avec lui.
Oui, c'est comme ça. Il faudra noter Rakib qu'en 2010-2011, si je ne me trompe pas, il y avait le ministre de l'Éducation, l'ancien ministre de l'Éducation. Bah, ça doit être un peu avant, parce que c'était pendant la période de Iki Lubanin. Non, après 2011-2010 que j'ai parlé. C'était quand Abdulkarim Mohamed était ministre de l'Éducation. Il avait fait un système, je ne sais pas c'était comment. En tout cas, ils ont fait une étude qui a fait qu'on a remarqué qu'au Comores, la plupart des profs de français ne maîtrisent pas la langue française. Hein. C'était vraiment un problème qui a été souligné. C'était à la une de la presse. Hein. Est-ce que tu peux en rajouter par rapport à ce problème-là?
Ouais, mais là, on ne va pas parler que des profs. Même aujourd'hui, quand vous voyez les politiques, des ministres ou des gens qui occupent de hautes fonctions, quand ils s'expriment, franchement, parfois, t'as honte. T'as honte d'être comorien. Et moi, je ne pense pas que c'est le plus important de dire qu'il parle mal ou il parle bien. C'est secondaire. Mais après, c'est l'image qu'il véhicule. Parce que quand t'es ministre ou quand t'es responsable d'un département...
T'es président même.
Oui, et... On va parler de politique.
Non, notre président va pas entrer là-dedans. Ça va.
J'ai envie de dire, par exemple, quand on est entre nous, on est aux Comores, on pouvait peut-être dire ouais, ça va, ça passe. Mais quand on dépasse le cadre, tu vois, on est au-delà des frontières. À un moment donné, il faut essayer de faire l'effort et de représenter dignement le pays. Donc, ce que vous venez de dire là concernant les professeurs qui ne maîtrisent pas le français ou qui parlent pas bien, enfin, je vais pas les accabler, parce que je pense que c'est pas forcément de leur faute. Non. C'est...
En tout cas, c'est pas tous les enseignants. En fait, c'est pas tous les enseignants. Nous respectons nos profs.
Je pense qu'une langue ne s'apprend pas à l'école. À l'école, on nous donne les outils qui nous permettent de pratiquer la langue. Mais la langue, faut la pratiquer au quotidien. Et quand on est au Comores, à la base, notre langue maternelle, c'est le comorien. Du coup, on parle le comorien au quotidien. Excusez-moi. Et entre nous, on parle pas français. Même à l'école, on parle pas français. Je me rappelle même quand j'étais au collège, les questions, on les posait même en comorien. Il y a des profs, ça les gênait pas. Alors que d'autres, ça les gênait, disaient, mais c'est comme ça, c'est en pratiquant cette langue que vous allez apprendre à parler, que vous allez apprendre à manier et que vous retrouverez les automatismes. Parce que vous avez ce qu'on appelle les outils, vous avez les règles, vous maîtrisez que ça se fait ceci. À l'écrit, vous pouvez vous en sortir. Mais à l'oral, c'est plus difficile parce qu'en fait, il faut que ça passe vite le temps que vous réfléchissiez. Et le plus souvent, on réfléchit en comorien pour parler en français. Et c'est là où il y a, enfin, c'est quand même pas mal des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, le comorien à plus de lacunes. Après, moi, ce que je voulais vraiment pointer, parce que là, on parle d'expression orale, mais même à l'écrit. Moi, je connais des étudiants qui sont diplômés de l'université des Comores, des licenciés en droit, et parfois, ils font des posts sur Facebook. Certes, c'est Facebook, parfois, on peut faire ce qu'on veut, mais à la limite, t'as envie de dire, mais le mec, peut-être, il a jamais été à l'école. Il a jamais été à l'école.
Il faut respecter Molière.
Il a jamais été à l'école. Et c'est. Après, il y a des fautes, tu peux pardonner, mais.
Ok. On va pas rentrer là-dessus parce qu'il y a nos auditeurs qui nous écoutent et qui vont nous indexer. Écoutez, ce bâtard-là, il parle en français et ils font des massacres de cette langue et après ils critiquent. Nous ne critiquons pas, mais voilà, c'est juste c'est parce que il y a celle qui vient de le rejoindre. Salam alaikum, Saïdi. Salam. Fais un petit coucou à nos auditeurs, Saïd, s'il te plaît. Salam alaikum, Saïd. Alaikum salam, gena raka janam va machi. Ok, là il est question des problèmes. Saïd, lui, il est président du pôle. Tu connais déjà Saïd, il est président du pôle des études. Hein. Pôle des études, c'est ça, Saïd hein. Pour la commission estudiantine de l'association Comores Impact. Et donc, je crois qu'il est mieux placé parce qu'il fait partie de plusieurs associations qui militent pour cette cause. Donc, il peut nous parler plus par rapport aux problèmes du quotidien des étudiants comoriens qui sont à l'extérieur. Là, on a parlé du problème de l'orientation. Maintenant, on va rentrer un petit peu sur la question du logement ou bien du financement des études. Ce que tu en penses par rapport à cela? Est-ce que c'est vrai? Cela peut... On peut faire une affirmation pour dire que voilà, c'est vraiment un problème qui se pose pour les étudiants comoriens et qui constitue un échec pour eux, pour le financement et le logement.
Bah, salam alaikum. Excusez-moi parce que je suis un peu malade.
C'est pas un problème. On est en hiver, on peut comprendre ça. Rapproche-toi du micro. On est en hiver. Ah.
Comme vous m'avez présenté là tout à l'heure, je m'appelle Saïd. Je suis le responsable de la pôle estudiantine des étudiants au sein de l'association Comment Impact. En fait, quand il s'agit de l'intégration ou de...
Oui, non, on parle du... Oui, c'est ça, c'est un petit peu l'intégration, mais on a parlé du problème de l'orientation. Tu peux rajouter là-dessus si tu as quelque chose à rajouter, mais maintenant, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton point de vue par rapport au problème du logement et du financement qu'on dit, ouais, nous venons en France, on est chez mon oncle, et voilà, les conditions ne sont pas bonnes, j'ai pas de bourse, voilà, je trouve même pas mon frais de transport. Est-ce que c'est pour tous les étudiants qui viennent en France ou bien c'est une partie ou voilà où se pose vraiment le problème?
Bon, ça c'est un problème presque de tous les Comoriens, étudiants Comoriens ou bien étrangers, bien sûr étrangers.
Oui, parce qu'il n'y a pas quel Comorien.
Certes, on peut prendre un logement de là-bas, on peut présenter des dossiers comme quoi on a pris un logement universitaire. On va venir ici pour faire des études à l'université. Mais une fois sur place, c'est pas vrai, on va pas dans la chambre universitaire, on va
habiter
chez un oncle, chez un père et tout. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur ça parce que parfois, les responsables, ceux qui t'ont logé, qui t'ont hébergé, qui t'ont pris en charge dans les dossiers, soit n'ont pas les moyens de t'assurer financièrement, ou bien ils t'ont dit, parfois, il y a certains qui disent, bah, je peux te loger, je peux te nourrir, mais je ne peux pas t'assurer les frais de scolarité, les frais de tout.
Et c'est le plus important.
Bah, voilà. Donc, se loger, c'est mieux. Et se nourrir, c'est encore plus. Donc, on dit, OK, je vais faire. Sinon, il y a ça. Sinon, parfois, il y a d'autres qui, en arrivant, ils veulent prendre l'autonomie. Se gérer en arrivant. Ils dorment ici. Mais ils ne veulent pas. Quand on demande, par exemple, Saïd, tu peux faire telle chose pour eux? Je parle comoréen là. Et pourtant, bon, quand on est dans un groupe, quand on est dans une famille, bah, chacun peut compléter la tâche de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, il y a une contribution de chacun.
Voilà, de chacun. Oui. Quel que soit moi, je ne peux pas contribuer financièrement.
Mais est-ce que cela pose vraiment un problème? Parce qu'on sort de 8h ou 7h du mat pour aller à la fac, à la bibliothèque, pour réviser. Et une fois à la maison, tu as vraiment besoin et tu peux te permettre de dire que, ouais, si mon tonton, ma tante, je sais pas, ma mère, me dit de faire descendre la poubelle, ça peut voilà, te déséquilibrer pour tes révisions.
Pour moi, je peux parler à mon cas. Je peux répondre à mon cas.
Oui, d'accord.
Pour moi, ce n'est pas un souci. Moi, j'ai vécu ici, ça fait déjà presque 7 ans.
Oui.
Et j'étais à la fois Sorbonne, à la fois Cergy. Et du coup...
C'est un double cursus, c'est ça?
Voilà, j'étais un double cursus. Mais quand j'ai fini l'école à 16h, ou bien n'importe quelle heure que j'ai fini, Je dois rentrer parce que j'étais chez ma sœur. Il n'y avait pas ma sœur à ce temps-là pour préparer à manger parce qu'elle avait ses enfants ici. Elle a ses enfants ici. Du coup, c'était moi qui devrais revenir à la maison, préparer à manger pour mon beau-frère et pour les enfants. Pour moi, ça me dérangeait pas parce que je dis, bon, OK, il n'y a personne ici. Je suis le responsable de la maison. Je fais quand je peux. Et parfois, quand je veux éviter tout ça, je reste à la bibliothèque. Et quand on m'appelle, ça y est, c'est où? Bah, je suis à la bibliothèque où j'ai cours. Mais une fois que je suis à la maison, même à la maison, si ma soeur est là, je ne fais pas. Même s'il me demande ça et tu ne fais pas, non, j'ai un truc à faire. Et pourtant, je suis sur Facebook, j'ai fait ce que. Mais ça ne me dérange pas de faire à manger, de faire la belle, de ramener les enfants à l'école, de ramener les enfants au chien, ça ne me dérange pas.
Est-ce que d'une manière globale, vous pensez que ça peut être une raison pour un étudiant de ne pas réussir?
Non. Pour moi...
Je parle d'une manière générale.
D'une manière... Je ne vois pas. Parce que Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais en double cursus. Quand je suis venu ici, j'étais à la Sorbonne. J'étais en licence 3 à la Sorbonne. Et là-bas, quand je suis venu, la première année je suis venu, j'ai raté. Je n'ai pas validé. J'ai validé uniquement le deuxième semestre. Je n'ai pas validé le premier. Et je me suis réinscrit. Et en plein année, j'ai vu une formation de Master 1 en études européennes et relations internationales qui était à Cergy, à la fois Cergy, qui était dans deux écoles, à Cergy et la Sorbonne. Et du coup, je me suis dit, quand je dépose mes documents pour la licence, le Master 1 à la Sorbonne, on ne va pas m'accepter puisque je me suis déjà inscrit en licence. J'ai formulé le dossier avec la licence que j'avais au Comore, j'ai envoyé à Cergy, Pontoise. On m'a accepté à Master 1. Et du coup, j'avais le semestre 2 à faire à la Sorbonne et l'année entière à Cergy. Et je les ai fait, j'ai réussi. L'année suivante, j'étais à Master 1.
Donc,
à la Sorbonne et Master 2 à Cergy.
Si j'ai bien compris.
Pourtant, de chez moi, à Cergy, j'ai fait 2 heures de temps. J'étais à Ris-Orangis. Si je fais 45 à 2 heures de temps. Du coup, ce n'était pas facile pour moi de gérer tout ça. Étant donné que je ne travaillais pas, je n'avais pas trop les moyens, j'étais limite. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais pas tout. À un moment, il faut du courage.
Ouais, je pense que Ratiba, elle a quelque chose.
Moi, j'ai une question pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au problème de justement du programme aux Comores, au problème de pédagogie. J'ai une question. Est-ce que le fait que vous ayez échoué en première année, enfin en licence, est-ce que justement
c'était
le
en licence 3.
En licence 3, est-ce que justement c'est en rapport à la manière dont on vous a formé aux Comores ou ça n'a aucun rapport?
Bon, honnêtement, quand je suis venu, ça a rapport avec ce que j'avais appris au Comore. Je peux dire, les matières, les choses sont les mêmes, mais il manquait la méthodologie, une certaine rigueur, je ne sais pas comment.
À l'écrit et à l'oral.
Non, parce que là-bas, quand on travaille, on n'a pas les travaux travaux dirigés, les travaux. Il n'y avait pas tout ça. Du coup, en venant ici, on t'a donné, par exemple, chaque prof t'a donné 3 livres à lire et un exposé, un travail sur la table. Du coup, à un moment, tu dis, waouh, à lire tout ça.
On sature.
Puisque logiquement, t'es pas là.
Donc en fait, c'est la quantité de travail qui pose problème.
Voilà, c'est la quantité de travail qui pose problème, la méthodologie.
Parce que moi, motivation aussi, je crois.
Moi, voilà, motivation. Parce que à un moment, je me sois. Ça, je ne vous cache pas. À un moment, je m'assois devant les retours à la Sorbonne. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de chercher ici? Mais je te jure, en pensant à mes collègues qui sont déjà années supérieures que moi, qui ont réussi en Afrique ou je ne sais pas où. Mais qu'est-ce que je viens rester? On m'a mis à l'école depuis. J'ai jamais échoué une année. Je suis là, je vais rater tous les ans ici. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Ouais. Et du coup, j'avais un prof qui travaille sur l'archéologie. Il nous enseigne à la Sorbonne, mais il travaille sur l'archéologie. Je lui ai expliqué mon cas. Il y a d'autres qui travaillent sur l'Afrique, parce que je suis étudiant en histoire. Je lui ai expliqué mon cas. À un moment, ils ont dit, OK. Ils ont commencé à m'aider. Ils ont commencé à m'aider, à m'expliquer les méthodologies, les moyens de m'intégrer, surtout de m'intégrer, faire des amis pour que je puisse m'intégrer. C'était ça.
D'accord, on va faire une pause de 3 à 5 minutes, histoire de prendre un peu de l'air et après on va reprendre à bout une chanson.
L'espoir fait vivre. Je suis pas du côté des victimes. Allô, Naké. Il est temps de péter un fond de commerce. Faut du liquide. Pélec, je suis quand ça débite. Jette mon flow quand je dabais. Je suis le meilleur comme d'un fou. Get me shoes. Jamais une distance, on me rattrape. Je suis au corner. Six dans le dos, j'ai la bonne pioche. S'enveille tes arrières quand ça ricoche. Tu sors tous les terrains comme la pop-boss. Laisse-moi frère, je suis dans ma bulle. Je suis dans tous les blavons, viens, on prend la.
image dès qu'il dérange. Rien dit, rien entendu, rien vu, never. Tu me détestes, c'est réciproque. Un selfie, never. Un style, un prince, tu veux être moi, never. Quand je t'abandonne, tu likes, on se follow, never. Christian dort sur le nez, je vois noir et blanc comme à l'ancienne. Tout est clean, tout est frais, tout est OP. Je connais pas ces rappeurs, ceux qui me connaissent. Le daron veut du blé.
Minutes ici à Montreuil, nous sommes de retour dans notre émission spéciale à l'occasion de la célébration de la journée de l'étudiant comorien en France qui aura lieu demain à Sarcelles. Et nous sommes avec, nous avons comme invité aujourd'hui le responsable des étudiantines de l'association Comorien Impact et notre chère amie chroniqueuse
Ratiba
qui va aussi intervenir pour exposer, donner son point de vue par rapport à aux étudiants comoriens, mais aussi à leur, aux problèmes qu'ils rencontrent ici en France. Donc, tout à l'heure, on parlait un peu de, des raisons qui, enfin, qui justifient, si on peut dire, de l'échec accusant, relativement accusant des étudiants comoriens en France. Et vous avez dit que vous avez mené un double cursus et ça ne vous a pas empêché de réussir, sachant que vous habitiez loin de chez vous. Mais dans ce cas, je pensais que Ratiba avait quelque chose à rajouter là-dessus. Je sais pas.
Non.
Vous aviez manifesté,
c'était
en tout cas,
pour,
un envie
pour
de...
C'était pour la méthodologie, savoir si on avait de la cuisine au niveau de ce qu'on a ramené aux Comores pour ici. Est-ce qu'on avait de la cuisine? Est-ce que les Comores nous enseignaient de tête ici qu'on avait pas là-bas? Donc c'était ça, c'était sur ça.
D'accord, là je pense qu'on va un peu accélérer, s'intéresser beaucoup plus à l'événement de demain, donc, mais aussi à l'association, parce que c'est justement pour ça que nous sommes là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de la genèse de l'association Comore Impact, de ce que vous faites réellement? Parce qu'on sait que c'est une association estudiantine, mais vous faites quoi exactement aujourd'hui? Les étudiants qui nous regardent, qui sont nombreux, qui ont des problèmes, qui rencontrent des problèmes au quotidien, comment faire pour vous contacter? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Donc j'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu sur ça.
Ouais, Saïd, il me donne la parole alors que je devais pas parler. Alors, l'association Comore Impact a été créée en 2016, comme je l'ai souligné ici dès le début. Et cette association regroupe tous les étudiants comoriens en France. On a pas mal de contacts des étudiants issus des universités différentes. Et notre objectif, c'est d'accompagner, de collaborer avec tous les étudiants. C'est déjà pas mal ça. Parce que on a évoqué des problèmes ici qui sont les mêmes problèmes que les étudiants qui sont à Marseille, à Lyon, à Lille, Poitiers, partout, voilà, ils rencontrent. Donc, on s'est donné ce combat de lutter un petit peu et faire ce que nous pouvons faire. Et puis, on a eu l'idée d'accompagner les étudiants dans leur démarche administrative pour les inscriptions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des formations qui sont proposées à l'université de Aix-en-Provence, Marseille, qui ne sont pas forcément proposées à la Sorbonne, ou bien qui ne sont pas proposées à l'université de Créteil,
de Paris 13.
De Paris 13, pourquoi pas, voilà. Et nous, justement,
ayant faisant cette union, ben on collabore ensemble, on demande, on donne les informations, voilà. Si par exemple il y a un étudiant qui veut s'inscrire à Paris 13, mais on sait qu'il y a Rakib, on peut lui contacter et voilà, lui mettre en relation avec l'étudiant qui veut faire son inscription à Paris 13. C'est cette idée-là. On a eu une deuxième idée de promouvoir la production des écrivains comoriens, pas que les écrivains, mais aussi les jeunes docteurs qui ont rédigé leur thèse et qui sont malheureusement mis à l'ombre des bibliothèques. Voilà, on ne feuillette pas leur thèse alors qu'ils ont rédigé des thèses très intéressantes sur des problématiques qui nous concernent tous, hein, et qui peut créer un engouement aux étudiants qui veulent s'inscrire en thèse. Parce que la thèse, peut-être Saïd peut nous parler, mais il y a ce sentiment d'appréhension pour les étudiants. Quand on entend parler de thèse, peut-être on imagine peut-être les États-Unis d'Amérique, un monde voilà, un monde irréprochable. Et donc quand on a eu cette idée, on s'est dit bah voilà, pourquoi pas mettre en place une plateforme qui va promouvoir la production de nos jeunes écrivains. Là demain on aura l'occasion de rencontrer Ali Zamir, un jeune écrivain qui a commencé à écrire il y a pas longtemps et voilà, qui commence à faire écho dans les médias, il est à la une de partout. Voilà, grâce à son talent. Et donc ça sera parmi les sujets qui seront débattre qui entrent dans les objectifs de l'association. Là, cette année, je peux vous parler que Comore Impact a aidé pas mal des étudiants qui ont
justement
eu des soucis.
Justement, c'est ce que je veux dire, mais je vais laisser aux responsables des étudiants.
J'aimerais qu'il nous parle de ça. Mais il était absent. Il était absent à un moment. Ouais. Peut-être on va lui poser une question très importante.
Mais ça va.
Voilà, justement. Oui, c'est ça. Prenez le micro. Prends le micro, Saïd. Voilà, ça sera ça. Là, on dit Comore Impact, il accompagne les étudiants. Mais c'est pas qu'en France. Mais Comore Impact a déjà ouvert un relais aux Comores. Je te laisse, Saïd, nous décrire un petit peu comment ça se passe.
Bon, avant d'y aller jusqu'à là, je te rejoins sur le point que tu venais de développer tout à l'heure.
Oui.
En fait, on a pensé que les étudiants ici, quand ils veulent travailler sur des sujets comoriens, parfois on n'arrive pas à avoir les données, les ressources de travail. On s'est rendu compte comment créer une base de données pour que c'est les étudiants d'aujourd'hui et de futur surtout d'en profiter de ces ressources pour leurs travaux scolaires. Donc Ngabo Paul, il y a Emma docteur, Ngabo Paul, Ngabo y a Emma, même les masters,
masters ouais,
ils ouais. peuvent nous joindre et envoyer leurs travaux. Comme ça, on va les mettre en ligne. Si demain quelqu'un veut travailler là-dessus, il peut consulter et prendre.
Voilà, et s'enrichir, oui.
Voilà. Donc ce pôle-là n'est pas, comme il a dit tout à l'heure, n'est pas uniquement en France, mais partout dans le monde. Donc là où l'étudiant comorien s'y résiste.
Ouais, parce que ça sera en ligne, donc ça sera consultable pour les étudiants qui sont au Sénégal.
Il y a même récemment, on avait une réunion pour les
jeunes doctorants.
Je me passe trop cette qualification. Bon, nous qui sommes inscrits en thèse, on avait une réunion, mais c'était juste parler de ça. Pour le pôle qui est déjà aux Comores,
oui.
Et partout dans le monde, j'y étais là-bas avec un collègue à moi qui s'appelle Mohamed Moussa. Et le but, c'était faire une réunion de sensibilisation de tous les étudiants qui veut que demain ils fassent face des inscriptions pour venir faire des études en France.
Alors, Saïd, moi j'ai une question parlant de sens justement. Vous avez pu contacter Campus France. Est-ce que on vous a parlé de ce problème qui concerne les étudiants qui veulent s'inscrire ici, bah, pour suivre les études en France, et qui payent des gens pour leur faire leur inscription?
Ouais, ils nous ont pas dit directement, c'est le mot.
Oui.
Mais ils ont dit, qu'ils créent leur compte.
Oui.
Quand on crée un compte, donc, pour eux, ils savent déjà manier le truc. Mais sur place, ils constatent ce problème. Pour eux, peut-être ils payent quelqu'un pour travailler là-dessus.
D'accord. Rakib, j'aimerais qu'on parle justement de ce problème-là pour les procédures, les démarches en ligne, parce que je pense que tu as suivi ça pour venir en France, moi également, Saïd. Et puis voilà, comment ça se passe un petit peu, parce que ça pose vraiment un véritable problème. Est-ce que pour pouvoir réussir sur les procédures d'inscription en ligne, ce qu'il faut vraiment, c'est quoi? Ce qui est demandé, ce que Campus France attend, ou ce que les universités, projets d'études,
en fait,
les notes
par rapport, je pense pas que Campus attend beaucoup de choses. Campus, il est là pour jouer un rôle de facilitateur. C'est plus les universités. Et je pense que ce qui compte le plus, c'est le projet professionnel. Après, il y a aussi les notes. Si vous avez des notes qui sont pas bonnes, je pense pas qu'ils vont vous prendre.
Mais j'ai des exemples, des étudiants qui ont obtenu des moyennes de 10 et pourtant ils étaient acceptés sur pas mal d'universités.
Je pense que c'est plus aussi le projet professionnel. Et voilà. Si par exemple vous avez fait des études de, je sais pas, de lettres aux Comores et que vous postulez pour faire un master en mathématiques, enfin, c'est un exemple tout bidon. Ouais. Je pense que vous savez déjà au fond de vous que vous ne serez pas accepté. Alors que si vous avez fait des études en droit privé et que vous comptez venir en France continuer des études en droit des affaires, c'est possible qu'on vous accorde l'inscription. À savoir aussi qu'il y a aussi le projet professionnel après, parce qu'il y a les études. Vous comptez faire des études, mais après, vous comptez faire quoi? Ouais. Parce que c'est bien beau d'avoir le diplôme, c'est bien beau de l'afficher que je suis diplômé en quoi, en ceci, mais la suite. Et ça, c'est les universités aujourd'hui, ils sont conscients de ce problème. Du coup, ils exigent beaucoup de l'étudiant qui puisse exposer un projet professionnel qui est assez solide et qui puisse comprendre que voilà, cet étudiant, une fois qu'il aura fini ses études, puisse rentrer au pays. Parce que ce qu'ils attendent aujourd'hui, les autorités françaises qui ont mis en place Campus et tous ces moyens qui facilitent aujourd'hui les étudiants étrangers d'une manière générale et comoriens, puisqu'on est comoriens, c'est justement pour qu'ils puissent venir ici profiter de l'enseignement français qui est de qualité et qu'ils puissent un jour rentrer aux Comores et faire profiter ça à leur pays d'origine. Donc si aujourd'hui l'étudiant comorien, le candidat aux études supérieures en France n'est pas en mesure de donner une assurance, j'ai envie de dire, aux universités françaises, comme quoi j'ai un projet bien solide et que j'aimerais bien faire proposer aux Comores.
Mais ce projet, il y a deux projets différents. Il y a projet professionnel et projet d'études. Hein.
Exactement, voilà. C'est ce que j'ai parlé au début. C'était le projet d'études. Le projet d'études doit être en concordance avec ce que vous avez fait aux Comores. Exactement, si vous avez fait droit, c'est normal que vous veniez en France pour continuer des études de droit. Ça, c'est le projet académique. Mais après le projet académique, il y a aussi le projet professionnel. Et ce volet-là est plus important. Parce que,
oui, le projet professionnel est plus important, tel que le projet d'études aussi est très important. Parce que, excusez-moi de te couper la parole là-dessus, parce que par exemple, un étudiant qui a fait une licence de littérature, il souhaite postuler, ou bien il a fini, supposons qu'il a fini son master de littérature de sciences du langage, il souhaite un jour faire des études en sociologie ou philosophie par exemple. Là, il ne va pas s'intéresser par rapport à ce qu'il a fait, mais de ce qu'il souhaite faire. Alors, en fait, c'est deux branches différentes. Par exemple, deuxième exemple, ceux qui ont fait littérature française ou comment, lettres modernes, là, ils ont fait lettres modernes, mais tu peux pas te permettre de dire, ouais, je fais un master de lettres modernes, comme si c'était standard. C'est pas standard du tout.
En fait,
faire un projet d'études sur sciences du langage, parce que c'est ce que tu souhaites faire. Journalisme. Mais tu vas pas refaire ce que t'as déjà fait.
Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, t'es donné un exemple assez simple
pour
que les gens puissent comprendre. Mais en fait, le plus important, c'est de pouvoir défendre ton projet. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux par exemple faire une licence en droit et postuler pour un master en économie. Mais le plus important, c'est de pouvoir défendre ce projet que tu as mis en place.
Voilà, c'est important.
Donc, quand je t'ai parlé de droit et venir faire droit, c'est qu'il y a quand même une suite logique et c'est plus
exactement
facile de défendre quelque chose de logique.
Mais il ne faut pas oublier, justement, j'aimerais que vous qui avez fait droit, vous me parlez un petit peu de ça, parce que quand on parle de droit, mais on dit « Ouais, mais on en a marre, tous les étudiants comoriens, ils font que droit ». Alors, est-ce que tu peux nous élargir
le problème, c'est ce qu'on appelle la croyance populaire ou l'imaginaire collectif. Déjà, quand on parle de droit, on pense directement au tribunal de Moroni, tribunal
exactement
de première instance, alors que c'est qu'une infime branche du droit. Le droit, c'est quelque chose de vaste. Là, vous avez le droit public, vous avez le droit privé, et au sein de chaque branche, il y a quand même divers branches. Et c'est pas parce que t'as fait une licence en droit que tu peux pas faire une licence en communication, voire, je sais pas.
Exactement.
En fait,
les exemples sont multiples.
Ils sont multiples. C'est une branche. Après, moi, ce qui compte, c'est pas que t'as fait des études en droit ou t'as fait des études en économie. Le plus important, c'est de savoir pourquoi tu les as fait. Et c'est quoi ton projet, et pouvoir en tirer profit de ce que tu as fait. D'ailleurs, souvent j'ai eu des échos de pas mal des étudiants ou des anciens amis qui me disent ouais, je fais pas thèse, tu vois rien. Souvent je réponds comme ça, c'est que Le plus important, ce n'est pas de faire une thèse ou de faire une licence de médecine. Le plus important, c'est de faire des études, mais aussi de tirer profit des études que tu as faites. Exactement. C'est mieux que tu aies fait, je ne sais pas, bac plus 2 et que tu puisses en tirer profit de ce bac plus 2 qu'une thèse
qui sert
là,
à
dire, oui, voilà, je suis docteur en quoi, alors qu'à la base, vous ne servez à rien. Excusez-moi du terme, mais voilà, c'est ça.
Bah, en tout cas, ce que nous avons vu, les exemples, ceux qui ont obtenu leur doctorat,
j'ai rien contre les docteurs. C'est bien d'avoir des docteurs. Mais après, c'est le plus important, franchement, c'est le projet professionnel. C'est pas d'avoir des diplômes. Je peux avoir des diplômes.
Oui, et... projet professionnel, mais j'aimerais surtout qu'on reste. Saïd, si tu peux rajouter quelque chose là-dessus sur le projet d'études, parce que tu as fait un parcours un petit peu différent, histoire, droit. Ce qui compte vraiment sur le projet d'études, parce que de base, quand on regarde les demandes, même ceux qui sont ici, quand tu as fini ta licence, tu vas postuler dans un master quelconque. Par exemple, toi qui as fait droit, tu veux faire droit privé. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Tu rédiges que tu veux être avocat, tu veux être juriste ou quoi? Voilà, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe.
Après la licence ou après le master?
Oui, après la licence ou le master, peu importe le domaine que tu cherches après, les démarches à faire, le projet d'études, comment on peut le constituer?
Quand on a déjà eu, par exemple, le master... pour postuler,
approcher du micro.
Voilà. Les deux, ça peut marcher. En direct au Facebook, vous pouvez poser les questions et Abou va les poser et après on va réagir. Voilà, Abou, regardez un petit peu parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent en direct sur Facebook et vous pouvez réagir, donner vos points de vue par rapport à ce qu'on débatte là. Let's go, Saïd.
Pour le projet d'études,
oui.
Là, après le master ou bien après la licence, si tu veux continuer, bon, tu n'as qu'à constituer un projet comme quoi, moi je vais faire tel diplôme, après ce que j'ai déjà eu par exemple, je vais continuer pour avoir un tel diplôme ou bien une telle spécialité. Après, c'est par là que je vais travailler dans ma vie professionnelle.
D'accord. Moi, par exemple, mes parents sont à Paris.
Oui.
Je souhaiterais un jour être journaliste, sachant que dans les écoles aux alentours de Paris, il n'y a aucune école de journalisme. C'est un exemple, parce qu'il y a pas mal de villes où il n'y a pas forcément les formations qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'il faut faire après?
Moi, ma
passion, c'est de faire journalisme. Et mon père est à Poitiers. À Poitiers, il n'y a aucune... c'est un exemple. Ce n'est pas forcément qu'à Poitiers, il n'y a pas eu cette formation. Mais c'est un exemple pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Parce que ce problème, si je pose cette question, c'est que j'ai vécu cette expérience. Il y a des étudiants qui ont fait une licence de droit aux Comores. Ils ont constitué un seul projet, comme s'il y avait un projet universel, un projet standard. Et ils ont fait une demande de philosophie, de sociologie, de physique.
C'est pas ça. Normalement, ça devrait pas être comme ça.
J'ai vu ça. Et ils ont payé quelqu'un pour faire ce projet. Un seul projet standard. Et ils ont fait plusieurs demandes de différentes formations.
Parce que pour faire le projet, il y a des points quand même à respecter. Tu dois motiver. Et tu dois montrer ce que tu veux faire.
Oui.
Tu dois montrer... C'est que si tu as réussi à ce diplôme, c'est que tu vas appliquer après ça.
Oui.
Et tu dois montrer encore pourquoi tu as choisi ça. Parfois, il y a même la méthodologie. Je vais faire pour ça, je vais travailler, je vais faire des enquêtes, je vais travailler des archives, je vais travailler pour montrer tout ça. Et pourquoi tu veux avoir cette spécialité, pourquoi tu veux avoir ce diplôme. Tout ça, c'est expliqué, même s'il n'y a pas de questions, mais tu dois quand même implicitement répondre à ces questions.
Oui, d'accord.
Ce n'est pas un projet qui devrait être standard pour toutes les formations.
Non, exactement, là, c'est important ça, parce que je voulais rajouter... Vas-y, continue.
Pour faire du droit et expliquer un cas pour faire la philosophie, c'est pas quand même pareil. Il faut tous les deux ont leur spécialité à part. Chacun a une spécialité à part.
Oui, oui, c'est ça.
Donc
c'est ça.
Il faut expliquer que ça, je vais être, par exemple, je vais travailler sur le droit de telle philosophie, de telle. Parce que en philosophie, tu peux travailler sur la philosophie du temps moderne, du temps, je sais pas quoi, quoi, quoi. Mais le droit, par exemple, le droit des affaires aériennes, parce que le cas, c'est le cas des Comores. On n'a pas un spécialiste pour tout ce qui est droit aérien.
Voilà.
Il n'y a plus. Même si tu vas à Sekna et tout.
Ou bien qu'il y a, mais on ne les connaît pas encore, parce qu'il ne faut pas ignorer que les Comoriens sont un peu partout, ils font des études.
Si je dis ça, c'est parce qu'il n'y avait pas sur place. Tu vois ce que
d'accord, voilà. oui, je comprends parfaitement. Oui, moi, ce que je voulais rajouter avant de céder la parole au président qui vient de nous rejoindre, c'est que maintenant, on n'est pas comme avant. On connaît ce que toutes les différentes facultés proposent, leur formation. On n'est pas à l'époque où certains établissements ne disposaient pas d'un site internet pour consulter les formations qu'ils proposent. C'était à l'époque où il faut te rendre sur place pour savoir les formations qu'ils proposent. Avant de faire la demande de la formation que tu souhaites faire, regarde bien les détails de cette formation. Est-ce que c'est ça la formation que tu veux? Au lieu de te hasarder comme ça, parce que si tu demandes une formation, tu attends que voilà, c'est la Sorbonne, je vais surtout ça, on va rentrer, c'est une autre problématique. Les gens ont peur, les étudiants hésitent de faire le demande à la Sorbonne alors qu'il y a plein de Comoriens qui font leurs études à la Sorbonne, que ce soit Paris 1, Paris 2, Paris 3, etc. Ce sont des grandes universités.
Ils acceptent beaucoup de Comoriens.
Oui, mais c'est pas un problème. De toute façon, il n'y a pas une différence, mais c'est l'ampleur qu'on donne à ces universités et que, voilà, on a ce sentiment d'appréhension de faire leur demande. Mais je reste sur le projet de recherche, c'est vraiment intéressant pour avoir l'inscription. C'est intéressant. Si tu fais une demande, par exemple, dans la faculté de lettres ou la faculté de lettres de Paris 13, tu fais une demande de sciences du langage. Mais tu demandes des matières qui sont pas forcément proposées à Paris 13 parce que tu as vu que Paris 8 propose ça et ça. Et toi, pour toi, quand c'est sciences du langage, il y a forcément cela. Ah non, c'est pas comme ça comment ça se passe. Si tu fais droit des affaires, tu regardes bien si Paris 8 il propose les matériaux que tu as déjà vus à la Sorbonne ou bien à Poitiers ou à Aix-en-Provence. Monsieur Sédomar, président de Comore Impact, vient de nous rejoindre. Cette heure-ci, il a fait quand même de retard, mais on l'accepte, on l'excuse. On l'excuse parce que c'est un responsable. On est la veille de. C'est le président. C'est le président. On peut l'excuser parce que demain, on aura la deuxième édition de la journée de l'étudiant comorien en France. Donc, il doit être partout pour sensibiliser, être sûr, se rassurer que tout se passe à la normale. Président, c'est Domar. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Garjo, shukuriya wa liyondum juwa honu. Aba sam jazien babé de BDB. Banangar anzori ke direct armoye a zenongo zinu. Rubashi le marhaba bade urikubali ya invitation. Ya atuinu ala fu rjeri rongo mbabi harma. Ye shuli joka hondili ya maudu. Mande namni kaur sabi kivano rizone. Sarma iba namaji nga bo conférence. Joka o etudi en rongo zinchia. Bo présentation des travaux de recherche. Zetezi zahe ma doktori watu ne ma doktoron nga wajau mavamana mbali na mbali wajoka huja yawa sharjo hanza ba majenazi jiba unajizini urambiye en gros en detail plutôt ze banama jiza maudu monsieur le président
handani ngamta uswa maha holi holo humu huja hango ka mandeli mwone sabo tiundi harma hazi wala e barnama jia maudu lukanai kanti ha ame e jornengi o na partin raro mashele e jornengi o na partin raro baadi ya ho partia mando ngasina juristi ka ungudu ka uja ya eleze uwa na zioni zine marcho za la zimumra dunge ka ungonzo ya hunde mkonti wa kihono hao kamruha kamna shioni ungonzo wa change statu parti ya vili nga sina mwana nyasi mwangon mwema chapa kalamu wako mwari alizamiri kwa hanzi hazi yozi hili shanzi chidima shambila homo na intansel lishi hanzi hamu iso na angi suroshi kwa hashanzi homo doni gaduka deba harimwe manzishi ya he alizamiri nukto ya raru harimwe banna maji ya mwando ndi zi hazi za hima doktora kwa hatu ngabo doktori mzima kawo hafana hazar mo literature ash komori ngabo mona nyasi kawo hafana hazar mo droit constitutionnel ngabo wasa hafana hazar mo ze association za komori huno ulaya bahdia bo kawo ndo sauti mezi ze intervention izo ngabo juka en grand concert se ndo wa tsoka har mo ngo za mabuku bahi ndo wa Wajidifoule, mbavi, ndo haoufou bien des barnamadia.
D'accord. Moi, j'ai une question par rapport à la sensibilisation côté des autorités comoriennes. Est-ce que vous avez pu toucher un petit peu ce côté-là, la diaspora, l'ambassadeur des Comores en France, voilà. Est-ce que vous avez quand même pu toucher cette partie?
Fikroka Karsina be ralliranti ridungo rive invitation à l'ambassade rendera mon vite ambassadeur
vous avez reçu de retour
ngena uzur kana koshinda ke yapo sha mangu rive hamru rive ngasina ma ritsah ma elu ra faranta ra komori harma par exemple rive invitation harma ima membro he plateforme he 93 pia voilà fikir kan.
Ok, il n'y aura pas des élus comoriens ou...
La rimanga wajuka ma élu wa Komori, nga wajuka tena ma élu wa Komori, na ma élu wa... Nga wajuka ma élu wa Komori, arma zena mnazonti ma élu, ika uwa lelisha Komori wajuka yao, nga wazalo honu wajuka yao. Ngavo diaspora wala lika la chaka mwana diaspora.
D'accord. Là, on voit que Abou, c'est une manifestation de grande envergure. Hein. C'est pas une simple fête. Voilà, on attend pas mal des responsables qui seront au rendez-vous. Mais président Sédomar, j'aimerais savoir quand même, c'est quoi le public qui est vraiment destiné à cette édition? Est-ce que c'est simplement les étudiants, les parents, les responsables qui sont invités? Quel public vous visez à cette journée?
Alors journée hem na shionim Komori huno walaya yabo wandu wenye shughuli swafi alafu wanyo shughuli wa kwa lalikiwa ngwajua fanya zongo zao lalika ruana zioni kwa kwatu jua kwa more impact ruwa jua wa ndasi lalika tena ne mafara ne madhamana wa daraja zindwa jina za wandu watimize misomo alu harma hazi na mazo mana wa hatura wa alu harma za haza serikali ra harma hazi prive.
D'accord. Là, Monsieur Sédomar, on a parlé du début de cette émission que Comore Impact accompagne les étudiants dans leur démarche. Mais j'aimerais d'abord m'excuser parce que je parle en français et Monsieur le Président parle en comorien. Mais voilà, on a commencé cette émission en français. J'aimerais quand même qu'on les termine en langue française. Et j'ai tiré cet exemple que Comore Impact accompagne les étudiants dans les démarches, les inscriptions, voilà, tout ce qui est administratif jusqu'à... voilà. Et puis, j'aimerais que vous nous citiez un petit peu des exemples de ce que vous avez pu faire.
Alors, ce que je veux dire, c'est que tu m'as induit en erreur parce que tu as commencé à parler en comorien et puis j'ai continué à parler en comorien.
Oui, j'assume, je l'assume, ouais, c'est vrai.
Alors, ce que je veux dire, c'est que déjà les inscriptions sont ouvertes pour la L2, pour la L1 jusqu'au 20 janvier et puis ils seront ouverts pour la L2, de la L2 à Master 2 à partir du 20 février, Inch'Allah. Alors, pour ceux qui voudront s'inscrire, c'est le moment. Parce que s'ils attendent jusqu'à la fin, ça sera un peu... c'est très sélectif à la fin, alors qu'au début, on a beaucoup plus de chance. Alors, ce qu'on a pu faire dans l'accompagnement des étudiants, on les accompagne dans les démarches pour s'inscrire, mais aussi... on fait des relectures aussi.
Des mémoires,
des relectures de des travaux de recherche.
Oui, c'est intéressant.
Aussi, on fait S'il y a des étudiants qui ont des difficultés et qui nous ont signalé, on cherche quelqu'un qui a un niveau un peu plus élevé pour lui donner un coup de main, surtout les nouveaux arrivants, parce que quand on arrive dans un pays, on est, c'est pas avec, voilà, c'est ça, on a avec un nouveau système, on est un peu perdu.
Oui.
Alors on cherche quelqu'un qui a un niveau un peu plus élevé pour lui donner un coup de main.
Oui, ça c'est important, Saïd, pour la relecture. Quand tu rédiges un mémoire, que tu rédiges tout seul, bah là, il faut te dire que voilà, c'est vraiment un travail personnel. Et puis, Monsieur le Président, j'ai une deuxième question à vous poser par rapport à l'organisation jusqu'à présent. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous demandez à nos chers éditeurs, nos internautes qui nous suivent en ce moment?
Alors, il nous manque une petite chose. Je ne sais pas si on l'a déjà eu parce que je ne suis pas connecté depuis un moment. Mais je pense que tout, dans l'ensemble, tout va bien.
Ok, bon, bah, très bien. À bout, on attend vraiment grande chose demain parce qu'il ne manquera rien. Tout est ok. On va retourner un petit peu sur les problématiques qu'on a commencé à étudier ici par rapport à l'orientation des étudiants. Au début, on va pas retourner de ce que nous avons dit, mais on va avancer quand même sur les problèmes qui se posent au niveau des étudiants étrangers en France. On a parlé du problème du logement, du problème du financement, du problème de malorientation, je l'ai dit. Et si tu en connais par rapport à l'expérience, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que j'estime que ça sera parmi les questions qui seront abordées demain, si je ne me trompe pas.
Déjà, au début, quand on arrive dans une université française, comme on l'a dit au début, on se sent un peu perdu, même au niveau de par exemple, de trouver les salles, de trouver là où trouver les informations.
Oui.
Ça fait partie des difficultés que les étudiants rencontrent. Ils savent pas. La première année, on fait tout, on essaie de s'adapter à l'endroit, au milieu. Et puis, il y a, comme vous avez cité, les problèmes de logement, les problèmes, les démarches administratives. Il y a aussi les problèmes économiques. Par exemple, quand j'ai fait mes études au Sénégal, ma famille est prête à donner, à m'envoyer de l'argent tout le temps. Et alors que quand je suis en France, ils disent il est avec son oncle. Alors que mon oncle, il est là, il s'occupe. C'est seulement l'hébergement, mais le reste, il s'occupe pas. Alors c'est une réalité qui se présente, qui est là, mais on l'ignore parce que dans les représentations comoriennes, par exemple, je pense que c'est le cas des autres pays africains plutôt, on a tendance à... Bon, on croit que la famille avec laquelle on vit est capable de subvenir à tous nos besoins, alors que l'étudiant doit faire ses études, mais aussi travailler pour s'en sortir. Il y a des étudiants qui ont des logements. Il doit travailler pour payer son logement. Et parfois, son travail ne s'adapte pas avec son emploi du temps. Les difficultés.
Mais est-ce que Monsieur le Président, cela est vrai? Des étudiants commencent à travailler à Cuic, faire le babysitting, etc. Et quand ils travaillent 16 heures par semaine, ils touchent 300 balles et se disent « Ouais, mais voilà, j'ai travaillé 16 heures, j'ai gagné 300 balles. À quoi bon de ne pas faire les 20 heures ou 24 heures pour gagner plus ?» Est-ce que c'est vraiment un problème qui se pose ou bien c'est juste, comme le disent les Comoriens, les « ce que c'est vraiment la réalité des étudiants?
C'est un problème, bien sûr, parce que on est venu en France pour faire des études, mais le problème est que quand on est en France, il y a la famille. Bon, on connaît tous, on vient d'un pays pauvre, on est issu des familles pauvres en général, et quand on est en France, il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur nos épaules. Par exemple, on veut travailler pour aider un peu la famille qui est là-bas et on a tendance à... Bon, on est épuisé, même si on veut travailler, on veut bien travailler à l'école, parfois on ne trouve pas le temps ou bien on est fatigué.
Alors, bonsoir, Président. Bonsoir à tous ceux qui sont parmi nous. Donc, je vais donner quelques commentaires de ceux qui nous écoutent actuellement et qui nous suivent sur Facebook. Donc, comme je vous ai indiqué, vous pouvez bien sûr poser vos questions. Nous avons Salim Abdoul-Djeh qui nous pose « Bonne initiative, mes gars. Incitant les futurs étudiants de construire des vrais projets d'études en fonction des attentes professionnelles et des autres, et des uns et des autres, à éviter l'extrapolation sur les institutions des différentes formations qui font généralement le conduire en échec. » Donc ça, c'est de la part de Salam Abdou. Et puis nous avons Sarah qui vous pose une question. Y a-t-il une structure pour accueillir les étudiants arrivants?
Oui, justement, ouais. J'aimerais ouvrir ce débat narratif pour parler un petit peu, parce qu'on voit, quand on voit les différentes communautés, par exemple la communauté malienne, les autres, je ne peux pas tout citer, eux, ils sont bien organisés quand ils ont même demandé logement. Président, peut-être tu peux nous donner cet exemple, ou bien Saïd, si je ne me trompe pas, qui m'a parlé de ça. Ils sont allés jusqu'à exiger à leur ambassade de construire un logement pour les étudiants. Est-ce que cette structure-là est capable pour les Comoriens? On peut faire ça, vous pensez?
Alors, ce que je veux dire, c'est que Comor Impact est fait et est créé pour accompagner, pour accueillir et accompagner les étudiants. Alors, on est là pour accompagner les nouveaux arrivants. En ce qui concerne les logements, il y a les Maliens, il y a les Malgaches aussi qui ont une cité.
Les Guinéens, je peux le dire.
Oui. Alors, nous, on cherche. Ça fait partie de nos projets. Je ne pense pas que c'est réalisable dans l'immédiat, mais ça va prendre du temps, mais on y réfléchit.
Et Rakib, quand on voit la négligence de nos autorités, vous pensez que c'est un tel projet réalisable?
Toi, tu me cherches des problèmes. À chaque fois, tu parles des autorités.
Je sais que tu es même
Je suis pas là, pour parler politique. Peut-être que ça viendra, mais je pense que si on attend des autorités comoriennes, on va rester là toute la vie. Parce que déjà, ceux qui sont aux Comores, qui n'ont pas assez de moyens, je n'ai pas dit que nous qui sommes en France, on a de moyens, mais ceux qui sont aux Comores, c'est encore pire. Et les autorités s'en fichent complètement. Ils préfèrent investir leur argent sur des assises ou je ne sais pas quoi. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, nous, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on doit les atteindre. C'est à nous, étudiants qui sommes là, de se réunir, de se donner de la force. Aujourd'hui, à Comor Impact. D'ailleurs, j'aimerais bien profiter pour poser une question au président avant de répondre à la vôtre sur la vulgarisation de l'association. Parce que moi, je connais Comor Impact, justement, virtuellement. Enfin, je vois des trucs qui sont publiés sur Facebook. Mais quand j'étais à la fac, j'ai pas eu connaissance de cette association. Donc, je voudrais savoir si vous menez un travail de terrain, vous allez auprès des associations, auprès des universités, auprès des étudiants qui sont dans les universités, parce que c'est une association étudiantine. Donc, normalement, les étudiants se trouvent à la fac. Et quand je suis à la fac, je vous vois pas. Donc, c'est sur Facebook que je vois que j'entends parler de Comor Impact. Est-ce qu'il y a ce travail de terrain qui est mené et qui vous permet d'aller au contact directement des étudiants qui sont un peu éparpillés partout, qu'on sait même pas d'ici ils sont comoriens ou pas? Et s'il n'est pas fait, comment faire pour remédier à ce problème? Voilà. Et Imran, on reviendra à la question.
Je vais répondre à ta question, mais il y avait une question qui a été posée par Abdoussalam.
Sarah. Sur
oui, l'accueil des nouveaux étudiants.
Ça, c'est déjà répondu, mais il y a le deuxième.
C'était juste.
D'accord. Ok. Bon. Alors. Comor Impact n'est pas. C'est une jeune association. Il est créé.
En 2016.
C'était en 2016. On a organisé la première journée de l'étudiant le 13 janvier. C'était juste pour célébrer la création de l'association. Alors.
Pour préciser que c'était le 14
janvier
2017.
Le 14 janvier 2017 essayé de. Bon, on fait un petit travail de terrain sur la sensibilisation des étudiants. Partout et notamment avec les étudiants qui se trouvent dans ces universités. Mais le problème, c'est que en réalité, c'est pas aussi facile de s'investir dans la vie associative. Il y a avec les devoirs. Alors c'est ce qui fait que il y a pas cette. On remarque pas vraiment l'implication des étudiants dans l'action de l'association.
Je crois qu'essayer de rajouter quelque chose. Bien, on peut encore terminer.
Oui. En fait, là, je vais parler des associations en général de Comores. et comorienne en France. En fait, j'ai vu que les Comoriens, ici en France, on a du mal à s'intégrer dans des associations sortes scolaires, dans des associations. À chaque fois qu'on dit, moi ça m'est déjà arrivé, en plus j'ai travaillé sur ça, sur le monde associatif aux Comoriens en France, est un moyen d'intégration en France et un rappel aux origines. Bon, une fois qu'on te rappelle, il y a une association, par exemple, dans la Sorbonne, pour les étudiants africains. Ah non, j'ai pas le temps, je vais à la bibliothèque, ou bien j'ai pas. On s'intéresse pas à y participer. Et pourtant, il y a une association à la Sorbonne, ADEAS, je te parle de l'ADEAS. Cette association a des activités tous les ans. Même, elle est reconnue par l'État. On organise toutes des journées, tous les ans. Et du coup, quand on parle des associations en général de Comoriens, j'ai vu qu'il y a, je ne sais pas maintenant, mais c'était l'année dernière, plus de 515 associations qui étaient reconnues dans le journal des associations françaises. Plus de 515 associations comoriennes. Et du coup, ces associations, le problème, ils sont reconnus, ils se disent qu'ils travaillent avec, mais quand on regarde, disons, dans leur activité, soit virtuelle, Facebook ou bien leur site, ils avaient organisé une activité, par exemple, aujourd'hui, et il faut attendre jusqu'à 5 ans après.
3 ans après, oui.
Il n'y a pas de suivi. Donc, si aujourd'hui, il y a des étudiants ou bien d'autres personnalités qui ont peur de participer dans l'association Comor Impact, c'est ça le problème. C'est un truc comorien. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va continuer?
Oui, justement.
On a peur de ça. Et du coup, on a peur de regarde, moi, j'ai fait des enquêtes au sein des associations. Il y a des jeunes qui sont nés ici, qui ne s'intéressent pas. Il y a certaines qui sont nés aux Comores, d'ailleurs, qui sont venues. Ils ne s'intéressent pas. À chaque fois qu'on demande, aujourd'hui, on a une association, on a une journée culturelle de telle ville, par exemple, de telle ville. Je parle des associations générales, bien sûr. De telle ville. Est-ce que tu vas... Non, je ne viens pas. Tu vois, les structures associatives sont toujours traditionnelles. Par exemple,
on reste sur Comor Impact. J'aimerais qu'on reste sur Comor Impact.
Je sais.
Parce que
c'est juste dire que si aujourd'hui les gens ont peur d'investir, ont peur de venir. C'est parce qu'ils ont ce problème.
Ils ont cet esprit. Problème.
Voilà,
cet esprit. Mais comment Impact est ouvert?
Moi, ce que je veux dire pour répondre en quelques mots à la question, c'est qu'on fait ce travail de sensibilisation dans pas mal d'universités. Je ne dis pas que c'est suffisant. C'est peut-être pas suffisant, mais on est ouvert à toute proposition parce que c'est notre premier objectif, c'est l'unité de tous les étudiants.
Et pour revenir, tu l'as souligné là au début qu'il y a ce problème parce qu'on est des étudiants, il y a des travaux de recherche à tout moment. Donc on est censé être à la bibliothèque ou bien être en cours au moment où tu n'es pas en cours mais tu veux travailler à côté. Donc on ne peut pas se permettre d'aller s'installer dans le portail de Paris 13 ou bien de Paris 8 pour dire « Ouais, on est association, comment on impacte, t'as de problèmes, venez nous voir. » Non. Dans chaque fac, on a un représentant qui fait le travail. Mais j'aimerais quand même donner la parole à Ratiba pour nous parler un petit peu de son expérience des associations, ce que t'en penses par rapport aux associations comoriennes et de tout ce que t'as entendu là, parce que toi, t'es différent un petit peu, on peut dire ça. T'as fait ton collège, lycée, Comores en France, voilà.
Alors moi, je pense que par rapport à l'association Comores Impact, je trouve que c'est une bonne initiative. Surtout par rapport à la plateforme internet que vous avez créée ou que vous allez créer.
C'est en cours.
Voilà, qui est en cours de production. Je trouve que c'est une bonne initiative puisque je ne sais pas comment ça se passe exactement l'orientation aux Comores puisque j'ai pas été jusque-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression en fait qu'il y a un gros problème par rapport à ça et que justement, en fait, les étudiants, ils ont besoin d'une plateforme qui leur soit propre pour pouvoir s'orienter correctement. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un étudiant qui, par exemple, habite à Poitiers, qui souhaiterait intégrer une université sur Paris, je pense qu'il y a des outils comme, enfin, des plateformes d'orientation, des outils qui sont connus en France, qu'on devait, enfin, dont on devrait parler aux étudiants aux Comores. Il y a l'ONICEP, par exemple, qui est un site d'orientation où il y a tous les données nécessaires, en fait, concernant toutes les facs et toutes les possibilités d'orientation possibles.
Ouais.
Alors,
prends le micro à bout si tu veux parler et tu vas te mettre en face quand même de nos chers internautes qui nous regardent à vous.
Voilà. Je reprends un peu l'idée de notre chroniqueuse, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez avec les autres structures d'orientation pour pouvoir permettre à ceux qui sont ici, à part ceux que vous avez, le CRUS qu'on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous travaillez avec l'UNICEF par exemple ou ces autres organismes d'État français pour permettre à ceux qui vont venir, parce que c'est un projet de futur, c'est-à-dire que permettre à ceux qui souhaitent continuer leurs études ici en France pouvoir être bien orientés, puisque comme on l'a remarqué, c'est vraiment un grand problème de majoritaire de d'orientation. Lorsqu'on vient ici, on perd du temps et ça permet pas de d'aller vite dans le travail d'études.
Je pense que la seule structure avec laquelle on travaille sur ce point, c'est
Campus France. Oui.
Mais pour orienter les étudiants, qu'est-ce qu'on fait ? On organise des ateliers, oui. On organise aussi des émissions, on organise des ateliers ici en France qu'on met sur le web. Et
oui, on a notre chaîne.
Et puis on organise aussi des ateliers sur place aux Comores pour sensibiliser ceux qui s'apprêtent à partir. Moi, je sais que aussi il y a beaucoup de choses à faire sur ce point. Même nous, on a un pôle qui se charge, le pôle étudiant, qui se charge de toutes les démarches concernant les étudiants. On veut introduire au sein de cette structure,
le pôle social, le pôle santé.
Non, parce non, qu'il y a non je vais dire au sein du pôle étudiant.
Le pôle scientifique.
Une structure pour l'organisation qui est spécifique pour l'organisation. Et oui, voilà, c'est ce qu'on pense pour. On a commencé à s'organiser. On cherche aussi à savoir le nombre des étudiants qui sont en France et les filières qu'ils choisissent, les universités où ils vont pour pouvoir mieux orienter les étudiants. Bon, ça, voilà, le travail, on commence à faire le travail, il reste encore à faire, mais voilà.
Si demain un étudiant est venu, il veut travailler sur un tel sujet ou bien il veut des recherches de tel, on peut dire, là, c'est déjà travaillé, ce travail était déjà fait par Imran, tu peux lui demander, il va te donner des conseils ou bien choisir un autre. Voilà.
Mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir le même sujet, mais avec des problématiques différentes. Mais quand on a eu l'idée de mettre en place un système de référence pour les travaux de recherche déjà réalisés, c'est justement pour qu'on puisse élargir les sujets. Ouais. Tu peux rédiger une thèse qui a été déjà faite, mais voilà, vos idées se distinguent ou tu vas contredire ce que telle personne a déjà dit. Bah, c'est faisable, c'est ça les travaux de recherche.
L'expérience de ce qu'on. Il y aura beaucoup d'idées à travers.
Exactement.
Vous qui est déjà faite.
Ce que je veux dire à propos de ce qui a été demandé, c'est qu'on est ouvert à toutes vos idées.
Voilà.
Même demain, il y aura un cahier spécial pour noter vos idées et vos remarques. Voilà, et que comme Impact, c'est l'association de tous les étudiants et ceux qui ont déjà fini leurs études, tout ce qui s'intéresse aux études. Alors soit vous intégrez l'association, vous impliquez pour venir pour avancer l'association.
Ok, l'union fait la force. Il est 19h09, il nous reste encore quelques minutes avant de finir cette émission parce qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, c'est le président qui est venu un petit peu en retard. Je donne à Rakib la parole pour un tout dernier sujet, mais avant de vous de donner à Rakib la parole, j'aimerais quand même rappeler à nos internautes et à nos auditeurs auditrices que le dimanche 14 janvier, on aura une émission avec CEDISCOM, le collectif CEDISCOM, pour nous parler de leur regard à travers les assises et la feuille de route tracée par l'affaire étrangère des Comores et l'affaire étrangère française, bien sûr, ainsi que sur pas mal des sujets d'actualité et leur dernière publication qui a été publiée sur le site de CEDISCOM. Et cette émission sera réalisée par Rakib le dimanche à 17h. Faut pas rater, hein. Il y aura à dire. Rakib, t'as la parole.
En fait, moi, je suis le politicien de la bande.
Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin d'aller en prison comme Abdallah Agoua. Il y a pas de respect pour ce métier.
Je pense que c'est important, ces genres d'associations. Moi, qui suis là aujourd'hui, je fais pas encore partie de Comore Impact.
Mais tu feras partie quand même. T'es convaincu ou encore?
Convaincu, oui, mais après, voilà, comme disait tout à l'heure notre cher ami, en fait, le problème, c'est qu'on a parfois cette fâcheuse idée à pointer du doigt le public, les étudiants, à dire qu'ils s'en foutent un peu des associations, d'une manière générale. Sauf qu'en réalité, il y a un passé par rapport à ça. Parfois, il y a des étudiants, ou même dans la vie de tous les jours, ce qui ne concerne pas les étudiants, on s'investit dans des associations, au final, on ne voit pas le résultat. Que ce soit c'est mal géré, que ce soit des problèmes financiers, on ne va pas se mentir.
On ne pense pas aux générations à venir.
Exactement. Du coup, aujourd'hui, les étudiants, la plupart, ils ne sont pas motivés. Quand tu as un peu de temps, tu te dis, je vais profiter peut-être avec ma copine ou avec mes potes au lieu de m'investir dans une association, sachant que ça serait important. Mais vu qu'on ne voit pas vraiment le résultat qui est escompté dès le début, ça m'intéresse pas. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai vu Comore Impact, je me suis dit, c'est une association comme tant d'autres. Ils sont là à dire, ouais, on s'occupe des problèmes des étudiants comoriens à l'étranger ou je sais pas quoi. Mais au final, on voit rien. Du coup, ça m'a pas vraiment plu. Après, je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que ça serait à moi aussi de m'intéresser, d'aller vers eux, de leur questionner, de voir réellement ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est justement aujourd'hui ce que j'ai vu. J'ai pu constater que quand même, il y a de la motivation. Et j'espère que ça va aboutir et qu'on pourra, en tout cas, ensemble, essayer d'améliorer les choses et faire en sorte que l'étudiant comorien en France ou partout dans le monde puisse s'épanouir et réaliser ses rêves. Inch'Allah.
Ratiba, t'as un mot à rajouter là-dessus? On va finir l'émission. Ok, très bien. Saïd, monsieur le président, t'as la parole pour finir cette émission.
Alors, ce que je peux dire, c'est...
Demain, grand jour.
D'abord, je vais remercier la radio Dunia Web parce que si Comore Impact est là, c'est qu'ils ont largement contribué à sa mise en place. En ce qui concerne la journée de demain, la deuxième édition de la journée de l'étudiant comorien, je vous invite à venir nombreux, parce qu'il y a, je vais raconter, j'ai pas le texte à mémoire, mais je peux le résumer peut-être.
Oui.
L'histoire d'un animal qui s'appelle le petit calobri, si je me rappelle très bien. Mm-hmm. Alors, il s'agit d'un petit animal. Un jour, il y avait un feu, un grand feu, et il y avait la panique. Tous les animaux couraient partout, de droite à gauche. Et puis, il y a ce petit animal qui est allé prendre de l'eau avec sa petite bec, pour essayer d'éteindre le feu. Et les autres animaux l'ont vu et ils ont dit, mais t'es bête, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec tes petites gouttes d'eau, avec cet incendie? Il a dit, c'est vrai, je ne peux pas l'éteindre, le feu, mais j'ai fait ma part. Alors, comment l'impact, on ne peut pas changer le monde, on est certain, mais on fait notre part, on fait ce qu'on peut. Le fait de dire que les choses ne vont pas, ne résout pas le problème. Il faut s'activer, il faut essayer de donner ce qu'on peut pour essayer d'améliorer les choses. Alors, je vous invite à venir assister aux conférences, ça sera très enrichissant, mais aussi à assister aussi aux concerts. parce que ce sont des artistes que je rencontre partout et ils sont
génial.
Voilà, c'est ça. Et
demain, je vais voir le président qui va danser.
Je vous, invite tous à venir à la journée et au concert.
D'accord. Monsieur le président, j'aimerais quand même, parce que il veut rajouter un mot, en tout cas deux mots seulement, je t'accorde, que la journée, ça sera gratuite, entrée libre. Mais par contre, la soirée, ça sera payante. Hein. Il faut préciser ça. On peut donner sa contribution et partir quand on n'a pas le temps, parce qu'on sait que, voilà, on a des occupations.
Payante de combien ?
Bah, 10 euros. Il n'y aura que 10 euros. Ceux qui veulent donner
c'est
plus.
Cher, c'est la crise, là.
Ceux qui veulent donner plus, ça sera génial. Personne ne va refuser. Saïd, t'as juste demandé. Ok. Bah, très bien, alors. Alors, chers auditeurs, auditrices, jusque-là, après, on fait notre émission. Je vous remercie à tous et à toutes. Qui nous ont, tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Et on s'excuse du retard gêné par les moyens de transport. Franchement, on a marre de RATP. C'est pourquoi le président.
Je pense que c'est un transport. Il y a certains qui étaient.
Oui. Saïd était à la fac. Saïd, il était à la fac. On le comprend. Il était perdu.
En fait, les transports, c'est un vrai prétexte.
Nos chers éditeurs nous comprennent tout à fait. Quand on est en Ile-de-France, c'est le transport. Avec les histoires de colis suspects, là, voilà, on comprend très bien. Et puis voilà, jusque là, on fait notre émission. On était avec Monsieur Saïd, doctorant, jeune doctorant en droit, c'est ça, en histoire. En histoire avec notre nouvelle chroniqueuse Ratiba et moi-même la parleuse, le parleur, pardon. Et je peux pas changer de genre. Okay, le parleur, le haut-parleur, membre de Comore Impact, parce que je suis de Dunia Web, mais aussi membre actif de Comore Impact, et Rakib, le grand journaliste de Radio Dunia Web, qui va vous présenter l'émission dimanche, faut pas rater, faut pas oublier, et le président de Comore Impact, Cédomar, aux techniques. À bout, et je vous remercie. On se retrouve très bientôt. Je salue le public. Merci à vous.
À la prochaine.
Faites un petit coucou à nos internautes.
La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais raculé. Parle en français, parle au cash, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours d'être comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde, je suis au fond d'un caravane IP. Ce bâtard sur la dèche, t'es mon adversaire. T'as pas de chance, tu peux têche, la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz, recueille-toi et laisse-moi en faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Et rien qu'elles se perdent, et même toi t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. C'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Mon bigot seul, je suis en mode avion. Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche le gaz vocal. Ça blesse, MHD affrontera partie 7. Le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, oui, tout est fainé. La moulagueque n'oubliera pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien dit, mais du sale, je vous promets. Tu m'attendais, calmate, j'arrive. 2017, on reprend les sociétés.
Ils ont voulu me boire, pas chance d'y arriver. C'est Dieu pour